fait quelques mois déjà qu'on n'est pas. À chaque fois.
Très bon
jeu.
Ça fait déjà quelques mois qu'on était venu vous visiter. Content d'être ici ce matin. Dire aussi que je veux remercier Denis et le conseil, parce que dans les dernières années, j'ai eu le privilège de venir sur une base régulière emmener la parole de Dieu. Mais à cause d'un changement à notre assemblée, je vais avoir besoin de prendre plus de responsabilités. Je ne pourrais pas venir l'an prochain. Mais je veux remercier le Seigneur du privilège que Denis m'a donné à travers les années. Il y a quand même, au moins 3-4 ans. Je remercie le Seigneur. Puis, j'ai apprécié d'avoir eu le privilège, à travers les années, de pouvoir amener la parole. Puis, on verra après un an s'il y a encore des besoins, si la porte est encore ouverte. Mais pour la prochaine année, c'est sûr que ça ne sera pas possible pour nous de. D'emmener la parole ici à Aldbury. J'aimerais continuer une série de messages qu'on a commencé sur les miracles de Jésus. Je ne sais pas si vous en rappelez, on a vu déjà quelques miracles. Et ce matin, j'aimerais continuer cette série dans Luc chapitre 8. Et comme vous avez vu, le titre du message, c'est 6000 contre 1. Et on va comprendre pourquoi tantôt. Ce qu'on va regarder ce matin, je dirais que c'est un sujet qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt dans notre monde aujourd'hui. C'est le monde surnaturel qui implique les démons, Satan, la magie noire. C'est quelque chose qui attire beaucoup notre monde de nos jours. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Faites juste penser à l'expansion des tireurs de cartes, du tarot, les médiums, la place de l'Halloween dans notre monde. On prend l'Halloween comme étant quelque chose de bien fun. Mais pourtant, la Bible nous dit « fuyez ces choses-là ». Lévitique 19 nous dit ceci, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point de part de vous suyer avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » C'est sérieux. Et pourtant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Halloween. Faites juste penser au nombre de films que les gens aiment du style exorciste. Les gens, ils adorent ça. Des séries télévisées comme Antise. J'ai même su qu'en 2017, il y a une série qui est sortie qui s'appelait Lucifer. Imaginez-vous. Combien d'annonces publicitaires on voit aujourd'hui où on voit Satan qui est là avec sa fourche? On se rit du monde des ténèbres. Pourtant, comme on va le voir ce matin, c'est un monde qui est très dangereux et destructeur. Mais savez-vous c'est quoi le comble de la folie de notre monde? Il se trouve chez Toys R Us. Les Ouija boards. Pas grave, ça que nos enfants jouent avec ça. Il n'y a rien là. Vous pouvez aller chez Toys R Us et acheter une Ouija board. Imaginez-vous. C'est inoffensif, c'est juste un jeu. On va voir ce matin que jouer avec le monde des ténèbres, c'est pas une joke. Loin de là. Quel mensonge le diable fait croire à nos familles. C'est pas pour rien que Jésus a dit, Satan, c'est le père du mensonge. Déjà dans le jardin d'Éden, il a commencé à compter des mensonges à Ève. Il a compté des mensonges à Jésus dans le désert. Moi, je peux tout te donner si tu te prestes devant moi. Et aujourd'hui, il y a exactement la même tactique. Le père du mensonge. C'est pas pour rien que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est exactement ce que Satan a fait avec notre monde en le tenant sous le joug de l'esclavage du péché. Mais n'ayez pas peur, parce que Christ a vaincu le monde des ténèbres. Genèse 3,15 nous dit ceci. « Je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » C'est exactement ce que Christ a fait à la croix. Écraser la tête de Satan. 1 Jean 3,8 « Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Colossiens 2,15 « Il a dépouillé la domination des autorités en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. » Quand Christ arrive, le domaine de Satan recule. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans le message. Voyez-vous, le royaume de Satan, contrairement au royaume de Christ, il n'est pas éternel. Et un jour, il va prendre fin. Et on va débarrasser de notre ennemi. Mais Christ a déjà commencé cette victoire-là. Mais il y a l'autre côté de la médaille aussi. Les gens qui nient complètement le royaume de Satan, les démons, et qui disent « Bah! Ça n'existe pas, ça! C'est pas vrai! » Ils nient complètement l'impact que les démons et Satan ont sur notre monde. Pourtant, Éphésiens 6 nous dit ceci, « Revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On est en guerre un matin. C'est sérieux? Paul dit, levez-vous à chaque matin et mettez l'arme, l'armure, parce que vous êtes en guerre. On n'est pas à maison, ça. On vit dans un terrain ennemi. Ça, c'est une réalité. Et même si on entend rarement parler des manifestations démoniaques, ça ne veut pas dire que le monde des ténèbres n'est pas actif. Il est très actif. Satan ne se montre pas avec une fourche, comme on veut nous le faire à croire. Hein, l'apôtre Paul nous dit quoi? Satan se déguise comme un ange de lumière. Et ce matin, que tu crois aux anges, que tu crois aux démons, ou que tu n'y crois pas, ça ne change absolument rien. Ils sont là, ils sont très actifs, ils sont très dangereux. Et c'est ça que Jésus va nous montrer dans le texte ce matin. Ils sont dangereux. Mais heureusement, Christ est au-dessus du monde des ténèbres. J'aimerais qu'on tourne avec moi dans Luc 8, versets 26 à 38. J'ai un peu de misère avec le micro parce qu'il écrase mes lunettes, puis mes lunettes sont croches, fait que j'ai de la misère à voir. Mes lunettes sont brisées, fait que ça me crée un petit problème. Luc 26, je vais essayer pour voir si je peux les enlever, parce que honnêtement, là, je pense que je vais les enlever parce que j'ai de la misère à voir. Donc, Luc 8, 26 à 38, nous dit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu par terre, il vint devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait l'esprit un peu de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il priait instamment Jésus de ne pas ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrant dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées du lac et se noya. Ceux qui faisaient paître voyant ce qui était arrivé s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé et ils virent auprès de Jésus. Et ils trouvèrent l'homme qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gérésiniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme qui était sorti des démons lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en lui disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. On voit ici combien Satan est destructeur. Ça ne marche pas mon affaire. Je peux-tu prendre le micro? Excusez-moi, parce que là, je ne vous vois pas. Peux-tu prendre, si c'est possible, Dominique? Je vais essayer ça comme ça, parce que ça ne fonctionne pas. Avec mes lunettes. M'entendez-vous?
Oui.
OK. Ça me prend mes lunettes. Donc, la réalité de vivre dans un monde déchu. Tout s'en va, incluant les yeux. C'est ça. Donc, le monde destructeur, mais on voit aussi, on va voir l'autorité et la suprématie de Christ sur ce monde des ténèbres. Parce que Satan, pas lui qui est vainqueur, c'est Christ. Dans le miracle précédent, on a vu que Christ est souverain et a toute autorité au-dessus des maladies, au-dessus de la mort, au-dessus de la création. Et ce matin, on voit que Christ a la suprématie au-dessus des démons et du monde des ténèbres. Pouvoir qui n'appartient qu'à une seule personne, Dieu lui-même. Personne n'a ce pouvoir-là, sauf Christ. Donc, on se trouve après juste le miracle après la tempête. Jésus vient de calmer la tempête dans le passage avant. Et là, Jésus arrive sur le bord. On a dit au verset 26 qu'il arrive sur le bord du mont de la Galilée, dans le pays des Gérésiniens. Et c'est pas clair c'est où ce pays-là, mais une chose est certaine, c'est probablement dans un pays païen. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens faisaient? Gardaient les cochons. Pour les Juifs, les cochons, c'est un animal impur. Donc, c'est probablement dans un secteur où c'était les païens qui vivaient. Et là, on va voir une rencontre entre deux royaumes va se passer. Le royaume de Satan et le royaume de Christ. Et on va voir, il va y avoir une rencontre qui va se passer entre les deux. Et on va voir deux choses. Premièrement, le pouvoir destructeur du péché et de Satan dans la vie d'un homme. Mais on voit aussi la suprématie et l'autorité de Christ sur ce monde des ténèbres. Donc, premièrement, le pouvoir destructeur du péché et de Satan. Dans les versets 27 à 30, Luc nous décrit la situation de cet homme-là. Et c'est vraiment pas beau. Quand je regarde l'image, ce que je pense, c'est un maniaque, un déséquilibré. Quelqu'un qui vit comme une bête, plutôt que comme un homme. Regardez premièrement au verset 27, ça nous dit quoi? L'homme était nu. L'homme n'avait aucune gêne. Il se prenait tout nu, il courait dans la rue tout nu, ça ne le dérangeait pas, pantoute. Ça nous démontre combien dépravé cet homme-là était. Combien loin il était rendu dans sa dépravation. Et regardez où ce qu'il vit. Il vit dans les sépulcres. Ça veut dire qu'il vit dans les cimetières. Hey, ça va pas bien, là. Quand ta maison, là, c'est dans les cimetières, là. C'est là qu'il vivait. Un vivant parmi les morts. Pourquoi? Parce qu'on l'avait racheté de la société. C'est un fou, c'est un maniaque. Et les seuls gens qui l'acceptaient, c'était les morts. En plus, il y a une force surhumaine. Regardez ce que ça nous dit au verset 29. On l'attachait avec des chaînes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il brisait les chaînes, puis il se retournait dans le cimetière. Et en plus, Matthieu 8 nous dit, il était furieux, si furieux que personne n'osait passer par là. Avez-vous déjà entendu parler de Charles Manson? Mais Charles Manson, là, c'était un petit gars comparé à ce gars-là. Et en plus, il était suicidaire. Parce que Marc 5 nous dit qu'il se mutilait à coups de pierre. Il essayait de se tuer, puis il n'était pas capable. Et on veut nous faire croire que le monde des démons C'est une joke, c'est le fun, puis c'est pas grave. Mais c'est ça que les démons font. Richard Phillips dit dans son livre « Les miracles de Jésus » ceci. « Cet homme était agité dans son angoisse, misérable dans son aspect et violent dans son comportement. » Et il ajoute ceci. « Cette description démontre bien ce qu'est la domination de Satan sur l'humanité, un avant-goût de l'enfer. » Pensez à ça. Un avant-goût de l'enfer. Les gens qui sont séparés de Dieu, là, ils vont vivre exactement comme cet homme-là pour l'éternité. Imaginez-vous. Séparés de Dieu, misérables, agités, et pour l'éternité. Est-ce que c'est important de prêcher la bonne nouvelle de Christ? Un avant-goût de l'enfer. Imaginez. Mais on peut se poser la question. Est-ce qu'on est à l'abri ce matin des possessions démoniaques? Est-ce que les démoniaques et les possessions démoniaques existent encore aujourd'hui? Vous direz oui. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce n'est pas le but du message. Mais qu'on veuille l'admettre ou non, qu'on croit au malin ou non, chacun de nous, on a été captif. Ou on est encore captif du malin ce matin. Qu'on le veuille ou non. Chacun de nous autres. Ici, je ne parle pas d'être dominé comme cet homme-là. Dans le sens d'être possédé. Mais d'avoir une influence sur notre monde. Éphésiens 2.1 nous dit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Notre monde est sous la rébellion, est sous la main, dirigé par Satan. Et si vous ne me croyez pas, faites juste regarder comment le monde vit. D'où viennent les dépendances comme la pornographie, la drogue, la boisson, le jeu? Le vol, le viol, les parents qui tuent les enfants qui tuent le parent, ça vient de où, ça? De Dieu? Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est un monde qui est sous l'influence de Satan. Vous allez peut-être me dire, « Ouais, mais nous autres, les enfants de Dieu, là, on ne peut pas être possédé du démon. » Absolument. Vous avez entièrement raison. Mais est-ce que des fois, par exemple, on peut être sous l'emprise de Satan? Absolument. C'est-tu possible pour un chrétien d'être tenté? Tourmenté? Harcelé par le diable? Être sujet à des divisions dans les églises? Ça donnait l'orgueil? Être écrasé par la peur? Avoir de l'amertume? De la rancune, de la colère. Ça vient de où, ça? De Dieu? Non. Même en tant qu'enfant de Dieu, on peut, dans un sens, être... On a été libéré du péché. Mais Satan, là, il veut juste une chose. Il veut juste nous détruire. Il n'est pas capable. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous ralentir. C'est ce qu'il veut faire. Il ne nous lâchera jamais. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, prenez les armes de Dieu. Vous êtes en guerre un matin. On est en guerre contre un monde qu'on ne voit pas, mais qui est bien là et qui est bien réel. Mais voyez-vous, la différence, c'est que pour le remède, pour un enfant de Dieu, là, c'est pas l'exorcisme, c'est la repentance. Tomber à genoux et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai tombé dans le piège du diable, je te demande pardon, pardonne-moi. On n'a pas besoin d'être exorcisé. Mais on a besoin de demander pardon au Seigneur, par exemple. Parce que trop souvent, on tombe dans le piège du diable. En tant qu'enfant du royaume, on n'a pas besoin d'avoir peur de Satan. Mais il faut être conscient qu'il est là, par exemple. Il faut être conscient qu'il est là, qu'il rôde et qu'il veut une chose, détruire le peuple de Dieu. C'est la seule chose qu'il veut faire. Il sait qu'il n'est pas capable. Il veut nous ralentir, par exemple. N'oubliez pas, Satan s'appelle le père du mensonge. Et voulez-vous savoir comment Satan est smart? Il a été capable d'entraîner un tiers de tous les anges qui étaient dans le ciel, qui voyaient Dieu jour et nuit. Est-ce qu'il est smart? Imaginez-vous, là, tu es dans le ciel, tu vois Dieu jour et nuit, tu es un ange, et Satan il est capable de te convaincre de te rébeller contre Dieu. Imaginez-vous le pouvoir de séduction que Satan a. Et nous, on pense, les enfants de Dieu, qu'on est à l'abri de ça. Pensez à ça, là. Il voyait Dieu jour et nuit. Et il était capable de les convaincre de se rebeller contre Dieu. Donc, il ne faut pas avoir peur de Satan. Mais il faut être conscient qu'il est là, qu'il est rusé et qu'il veut juste une chose, détruire le peuple de Dieu. Exactement comme il a voulu faire avec cet homme. Il a voulu l'écraser, le rendre malheureux jusqu'à la fin de ses jours. Pour ça que Paul nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi il faut résister au diable? Parce qu'il est là, il veut nous attaquer. Mais il y a une bonne nouvelle. Christ débarque du bateau. Regardez au verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Avez-vous remarqué, Jésus, il n'a même pas dit un mot encore. Il a juste mis un pied à terre. Qu'est-ce que le démon fait? Il vient se mettre à genoux devant lui. Jésus, il n'a rien dit. On voit l'autorité et la suprématie de Christ sur le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Quand Christ arrive, les démons sauvent. Voyez-vous, juste avant, quand il y a eu la tempête, les disciples se sont demandé, l'un et l'autre, qui est donc cet homme à qui obéisse la tempête? Ils n'avaient pas reconnu qui était Jésus. Mais les démons savaient qu'est-ce qu'il était, par exemple. Il a juste mis un pied à terre et ils sont venus se prosterner devant lui. Imaginez. Et en plus, il n'y a pas juste un démon. Regardez verset 30. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Est-ce que vous savez c'est quoi une légion? Une légion romaine du temps d'Auguste contenait 6826 hommes. 6100 soldats à pied, 726 soldats à cheval. C'est bien pire que Marie de Magdala qui en avait 7, hein? On ne peut pas savoir s'il y avait 6000 démons vraiment. Mais il y en avait probablement au moins 2000. Parce qu'il y avait 2000 cochons. Puis on demandait à Jésus, on peut-tu aller dans les cochons? Fait qu'il y avait probablement au moins 2000 démons dans cet homme-là. Pourquoi tant de démons dans un seul homme? Un, c'est assez. Dieu voulait démontrer que Christ a tout pouvoir sur les démons. Et qu'il y en aurait eu 2000, 5000, 10000. Christ avait juste besoin d'arriver, pas dire un seul mot, et ils viennent simplement se mettre aux genoux de Christ. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire malgré leur grand nombre? Premièrement, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est reconnaître la suprématie de Christ. Par leurs actions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent se mettre à genoux. Ici, prosterner, ça veut dire une marque de grand respect devant un monarque. Hey, c'est des démons, là. Et ils viennent se mettre à genoux devant Jésus. Est-ce que Christ est suprême? Est-ce que Christ a la suprématie sur toute chose? Imaginez. Pourquoi les anges ont reconnu, les démons ont reconnu que c'était Jésus? Jésus n'a rien dit encore. D'où viennent les démons? Ils étaient où? Avant. Ils ont vu Christ dans toute sa gloire. Les démons, c'est les anges qui étaient au ciel, qui l'ont servi dans le passé. Et quand Christ débarque du bateau, ils savent qu'il arrive. Et dans leurs actions, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se mettre à genoux devant Christ. Mais aussi dans leurs paroles. Regardez comment ils appellent Jésus. Qui a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Wow! Les disciples ont dit, c'est qui ce gars-là? Les démons ont dit, fils du Dieu très haut. Ça sort de la bouche des démons. Et le mot ici, c'est El Elyon, le Dieu tout-puissant. Le même nom que Abraham a utilisé, Yahvé, que Job a utilisé, que l'auteur du psaume 97. Car toi, Éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre, tu es souverain, élevé au-dessus des cieux. Ésaïe a utilisé le même mot, Michée a utilisé le même mot, et là, ça sort de la bouche des démons qui nous démontrent la suprématie de Christ. Christ est bien au-dessus des démons, bien au-dessus. Il ne faut jamais oublier que Satan est juste le prince de ce monde. Qui est le roi? Christ est le roi. Christ est le roi des rois. Il est au-dessus de ce monde de ténèbres-là. Et c'est ce qu'il nous montre par ce miracle ce matin. Jésus a juste besoin de débarquer du bateau. Et il se met à genoux et il crie à haute voix, « Tu es le Fils du Dieu très haut. » Imaginez. Pas pour rien que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser les élus de Dieu? Satan? Non! Parce que Christ est là pour nous défendre. Et Paul ajoute plus tard, à cause de cela, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et savez-vous ce que cette confection-là des démons me montre aussi? Croire que Christ existe, c'est pas assez. Jacques 2,19 nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais ils ne sont pas sauvés. Croire que Jésus a existé, c'est pas assez. Ça prend une décision de ta part. De décider de dire, oui, c'est vrai, je suis un pécheur, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de croire en Christ et je veux m'engager à le suivre. Si la seule confession de foi que toi, tu dis, je crois que Jésus existe, mais les démons aussi, toi, ça prend plus que ça. Ça prend un acte de foi de ta part, ça prend un engagement de ta part. De dire, je veux croire dans le Seigneur Jésus, je veux le suivre. Sinon, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça prend un engagement et rien de moins. Mais les démons ne nous montrent pas juste la suprématie de Christ, ils nous montrent aussi la souveraineté de Christ. Regardez la fin du verset 28. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Verset 30. Les démons étaient là devant lui et il priait instamment de leur accorder de ne pas aller dans l'abîme. Il demande la permission au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Christ est suprême au-dessus de toute chose et il est souverain. Et les démons savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire si Christ ne leur permet pas. Rappelez-vous de Job. Hein, Satan arrive dans le ciel. Là, il veut accuser Dieu d'être de Job. Ben oui, c'est un bébé gâté, tu lui donnes tout. Et quand Dieu permet à Job, il dit, tu touches à ça, mais tu ne touches pas à ça. Et Christ, c'est la même chose. Il demande, s'il vous plaît, envoie-nous pas dans la Bible. On voit comment Christ il dirige. Toute chose est au-dessus, clairement, du royaume de Satan. Ils doivent lui demander la permission. Et là, Jésus leur permet. Il donne la permission. Et pour nous, ça devrait être encourageant, ça. De savoir que Christ est là, nous défend, et que Satan et les démons ne peuvent pas aller plus loin que ce que Christ permet. Quelqu'un a dit ceci. Quand Satan t'accuse en te rappelant ton passé, ne l'écoute pas, mais rappelle-lui son futur. Pense à ça. Il veut t'accuser et dire, « Hey, Daniel, tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu as fait? » Oui, je m'en rappelle, mais toi, tu te rappelles-tu qu'est-ce qui s'en vient? Et qu'est-ce qui s'en vient? Les démons nous le disent au verset 31. Il le priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et l'abîme, ça veut dire un puits sans fond. Un puits où est-ce que tu tombes dedans et tu n'arrives jamais au fond. C'est ça que ça veut dire. Et les démons, là, ils demandent à Jésus, « Jésus, s'il vous plaît, envoie-nous pas dans l'abîme. » Pourquoi? Parce qu'ils sont très conscients qu'il y a un jugement qui s'en vient. Les gens vont dire, « Ben, voyons donc, oh, hey, en enfer, on va avoir un méchant party là, mon chum, on va avoir de la bière et des femmes, on va avoir du fun. » Ben, c'est drôle, les démons ne veulent pas y aller. C'est drôle pareil, hein? Les gens vont nous faire croire qu'en enfer, on va avoir du fun. Mais les démons, ils prient Jésus de ne pas y aller. Parce qu'ils savent très bien que ça va être une place qui va avoir des pleurs et des grinchements dedans pour l'éternité. Et toi non plus, tu ne vas pas y aller si tu ne connais pas le Seigneur Jésus un matin. Parce que si les démons ne veulent pas y aller, là, ça ne sera pas important d'enfant. Ça va être une place de jugement loin de la face de Dieu. Exactement comme notre ami tantôt. À crier, malheureux, déchiré, tu ne peux plus rien faire. Il est trop tard. Les démons sont conscients. Ils ne veulent pas aller dans cette place de tourment. Et je dirais peut-être ce matin, tu refuses de tomber à genoux devant le Seigneur Jésus. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Un jour, tu vas tomber à genoux, que tu le veux ou non. C'est une réalité. Philippiens nous dit ceci, « Dieu, en parlant de Christ, l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et si tu ne vas pas tomber à genoux ce matin devant Christ, un jour tu vas être obligé de plier le genou et reconnaître que Christ est Seigneur et souverain, exactement comme les démons l'ont fait. Un prédicateur que j'aime beaucoup, M. Lawson, a dit ceci. Il n'y aura plus d'athée à la fin des temps. Pourquoi? Parce que l'athée dit qu'il ne croit pas que Dieu existe. Bien, à la fin des temps, il va le voir. Il n'y a plus personne qui va pouvoir dire, « Moi, je suis un athée, je ne crois pas dans Dieu. » Parce qu'ils vont le voir. Et si tu es un athée, ce matin, un jour, tu vas le voir que Dieu existe. Exactement comme les démons ce matin. Et tu vas reconnaître. Et peut-être tu vas supplier. Mais il va être trop tard. Il va être trop tard. Si tu ne veux pas reconnaître qui est Christ et ce qu'il a fait, un jour, tu vas te retrouver devant le grand trône blanc. Et tu vas être jugé. Et tu vas te trouver coupable. Et malheureusement, tu vas aller rejoindre Satan et les démons dans le puits sans fond. Et je ne dis pas ça pour faire peur à personne, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les démons reconnaissent Jésus. Mais regardez le pouvoir de transformation que Christ peut faire dans la vie d'un homme. Verset 33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées du lac et se noya. Les démons sortirent de cet homme. Avant, l'homme était nu, brisait ses chaînes pour aller dans les cimetières, vivait comme un animal, faisait peur aux gens, se meurtrissait à coups de pierre. Lisez le verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti du démon, assis à ses pieds. Wow! Vêtu et dans son bon sens. Est-ce que l'Évangile transforme? Un homme qui se mutile, qui court comme un fou, qui brise des chaînes, qui fait peur au monde, là, il est assis aux pieds du Seigneur Jésus, prêt à être enseigné, habillé et dans son bon sens. Wow! Quel changement! Et c'est ça la bonne nouvelle. Christ est venu nous racheter, nous libérer et nous transformer. C'est ça la bonne nouvelle. Exactement comme cet homme. On était captifs. Et je dis « était » et peut-être tu l'es encore ce matin. Mais Christ est venu pour nous libérer. Exactement comme ce maniaque. Et je l'ai déjà dit dans le passé, je le dis encore. Quand Christ te saisit, tu es transformé. Pas parfait, mais transformé. Changé. L'aveugle, il ne voyait pas, il rencontre Jésus. Qu'est-ce qu'il y a après? Il voit. Le boiteux, il marche. Le sourd, il entend. On ne voit pas Jésus passer dans la vie d'un homme ou d'une femme et que la personne repart comme elle était avant. Ça n'existe pas. Ce printemps, j'ai continué à lire sur l'histoire de l'Église, les livres que Guy m'avait prêtés. Et dans le livre, il parle des chrétiens qui, à travers les siècles, ont souffert. Il parle des croisades de l'Église romaine. Des croisades, ce que c'était, c'est qu'il y avait des gens qu'on appelait les hérétiques. Les hérétiques, c'était qui? C'était les vrais chrétiens. Les gens qui ne voulaient pas acheter l'indulgence. Les gens qui ne croyaient pas dans le pape. Mais ces gens-là vivaient parmi le peuple. Il y avait les polices pour les croisades. Mais comment trouver les chrétiens parmi le monde? C'est simple. Très simple. On disait aux policiers des croisades ceci. Ils sont très faciles à trouver. Voici comment. Vous les reconnaîtrez à leur conduite et à leur langage. Ce sont des gens graves et modestes. Il n'y a ni luxe, ni désordre dans leurs vêtements. Ils sont sûrs en affaires et évitent les faux serments et les tromperies. Ils ne cherchent point les richesses, mais se contentent du nécessaire. Ils sont chastes et tempérants et fuient les tavernes et les lieux de divertissement. Ils s'abstiennent de colère. Ils sont toujours à leur travail et bien occupés à enseigner et à s'instruire mutuellement. On les reconnaît aussi à leur langage de simple et sobre, exempt de paroles oiseuses. Ils ne se permettent ni conversation légère, ni mensonge, ni jugement. Wow! Si la police des croisades venait chez nous, il n'y en a-tu cogné à la porte pour dire « Monsieur Grenier, on vous a vu regarder vivre, puis vous êtes trouvé coupable. » Mais c'est ça que ça fait quand Jésus passe dans nos vies. Il faut qu'il y ait des changements. Sinon, ce n'est pas l'Évangile de Jésus. C'est ça que ça fait. Christ nous transforme, nous, on ne devient pas parfait. Mais comme cet homme-là, on était des maniaques. Et quand Jésus rentre dans nos vies, il nous transforme, il nous change. Peut-être que vous avez entendu parler de Bart Miller. Bart Miller, c'est l'homme qui a écrit le chant populaire « I can only imagine ». Est-ce que vous connaissez ce chant-là? Il raconte l'histoire de dire « I can only imagine », qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver au ciel? Est-ce que je vais chanter ou est-ce que je vais tomber à tes pieds? Un très beau chant. Je n'avais jamais entendu parler. Vous irez sur Google aujourd'hui puis écoutez ce chant-là. « I can only imagine ». Et Bart Miller a écrit ce chant-là après la mort de son père. Et voici ce que Bart Miller dit concernant son père abusif qui l'a battu pendant des années.
Bart Miller dit ceci.
Mon père était un monstre. Un monstre. Mais après sa rencontre avec Jésus, après sa conversation, sa conversion, il est devenu l'homme que je voulais devenir. Il est devenu mon meilleur ami. Wow! Mon père, c'est un monstre. Et mon père, c'est mon meilleur ami, l'homme que j'aimerais devenir. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. De monstre à meilleur ami. C'est ça l'Évangile. Un pouvoir de transformation. Comme cet homme un matin. Et une chose qui ne ressort pas vraiment du texte, mais qui est là. Cet homme-là n'était pas capable de se libérer de lui-même. Personne ne pouvait l'aider. Le seul qui pouvait l'aider dans son esclavage, c'était Christ. Et ce matin, c'est la même chose avec toi si tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Essaye pas de te libérer tout seul, tu ne seras jamais capable. Mais si tu tombes à genoux, tu cries à Christ, Christ peut te libérer. C'est le seul. Le seul. Le seul qui peut réveiller nos âmes par le Saint-Esprit, c'est Christ. Christ dit, vous ne pouvez pas venir à moi si mon Père ne vous appelle. Mais si tu cries au Seigneur, il va t'entendre. Voici une citation de l'un des précurseurs de la Réforme, M. Wycliffe, nous dit ceci. En condamnant l'Église catholique, il dit, « Croire que l'homme peut quelque chose dans l'œuvre de la régénération est la grande hérésie de Rome. Et de cette erreur est venue la ruine de l'Église. » L'Église catholique a cru qu'elle pouvait se sauver par elle-même. Et M. Wycliffe dit, « Quelle erreur! Quelle erreur! » Christ est le seul qui peut libérer des âmes des griffes de Satan et du monde des ténèbres. Personne d'autre n'est rien d'autre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le seul qui peut nous libérer. Regardez la réaction au verset 37. Tous les habitants des Gérésénies prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils rejettent Jésus. Ça coûte trop cher. Hey, ça nous a coûté 2000 cochons pour un âne. C'est bien trop cher. On chante un beau chant qui dit « Quel est le prix d'une âme? » Mais pour eux autres, 2000 cochons pour un âne, ça coûte trop cher. Et c'est exactement ce que des milliers d'hommes et de femmes font dans notre monde à tous les jours. Et peut-être toi ce matin, tu préfères tes bébelles. Christ veut donner la liberté, mais tu préfères tes richesses. Exactement comme ces gens. Voyez-vous, c'est un petit peu comme si Christ venait chez vous. Tu es dans une prison. Et là, Christ rouvre la porte. Et il te dit, « T'es libre, mon ami. » Toi, tu dis, « Non, non, moi, je reste en dedans, je suis bien ici. » C'est fou, hein? Mais quand on refuse Christ, c'est exactement ce qu'on fait. Mais savez-vous ce qui est malheureux? C'est qu'un jour, la porte va se refermer pour ne plus jamais se rouvrir. Christ ouvre la porte et il te dit, la porte est ouverte. Et combien de gens font exactement comme les gens dans cette ville? Jésus, va-t'en d'ici. On ne veut pas de toi. Coûte trop cher. Coûte trop cher te suivre. Mais regardez ce qui se passe dans la vie de cet homme. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Le pouvoir de la transformation de l'Évangile d'un maniaque à un missionnaire. Pensez à ça. Une heure avant, l'homme, c'est un fou. Une heure après, c'est un missionnaire. Est-ce que Dieu peut transformer des vies? Wow! De maniaque à missionnaire à l'intérieur de X nombre de minutes. C'est ça la force de l'Évangile. Pensez à ça une minute. Et si ce matin tu connais Jésus, j'espère que tu as un cœur rempli de joie, de reconnaissance, de dire, j'étais dans ma prison, mais Christ est venu me libérer. J'étais captif, exactement comme cet homme. Fou, perdu. Il y a des milliers de gens qui sont comme ça, qui ne le savent pas. Mais dans sa grâce, Dieu nous a libérés. Puis ça va la joie de goûter la grâce du salut, d'avoir été libéré par Christ. Il y a un autre détail au verset 39 qu'on peut facilement passer à côté. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Mais regardez ce qu'il fait. Il s'en alla et il publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Savez-vous ce que ça me dit? Il y a trop de gens qui parlent de Dieu, mais qui ne parlent pas de Jésus. C'est qui Dieu? Mais pour bien du monde, Dieu, c'est Allah, Bouddha. Jésus a dit « Va » et parle de Dieu. Lui a parlé de qui? Il parlait de Jésus. Le mot tabou que notre monde ne veut pas. Tu peux parler de Dieu tant que tu veux. Mais si tu parles de Jésus, par exemple, wow, Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie. Wow, c'est agressant, ça. T'as pas l'esprit ouvert, toi. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est correct de parler de Dieu. Mais cet homme-là, il n'a pas parlé juste de Dieu, il a parlé de Jésus. Le mot tabou que les gens ne veulent plus entendre parler. Mais ce n'est pas Dieu qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Parce que des dieux, il y en a plein de dieux. Mais il y a juste un Jésus. Et c'est ce que cet homme-là a fait. Jésus a dit, va parler de Dieu. Lui, il a parlé de Jésus. Ils ont parlé hier, moi et Denis, le témoignage, des fois, on dit, c'est quoi qu'on devrait dire dans le témoignage, parler de l'Évangile? Bien, c'est simple. Parle de ce que Jésus a fait pour toi. Il n'a pas été à l'école biblique, lui, là. Il a juste dit, retourne dans ta maison et va dire à ta famille, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est juste ça, l'Évangile. J'étais un fou. J'étais pogné. Christ m'a libéré. Aujourd'hui, je suis libre et je m'en vais vers ma maison. Je ne suis pas chez nous, ici. Je suis juste de passage. Qu'on puisse se réjouir. Et n'ayez pas peur du monde des ténèbres. Oui, c'est un monde dangereux. Oui, c'est un monde qui veut nous attaquer. Mais Christ est au-dessus de ce monde-là. Pensez à ça. Jésus fait juste débarquer du bateau, sans rien dire. Les démons viennent se mettre à genoux et ils crient à haute voix, « Tu es le Fils du Dieu très haut. » Et ça, c'est notre Dieu. Le but ce matin, ce n'est pas d'avoir peur du monde des ténèbres. Mais une chose, soyez conscients. Il est là, il est dangereux, il veut vous détruire, mais Christ est au-dessus de ce monde-là. Et Christ revient un jour. Il revient chercher son Église. Et j'espère que cette journée-là, la porte de ta prison ne sera pas fermée. Elle va être ouverte et tu vas être sorti parce que Christ t'aura libéré. Oui, Seigneur, combien je veux te dire merci. Merci, Seigneur, parce que l'Évangile nous transforme. Seigneur, quand je pense où j'étais, je te cherchais pas. Seigneur, je ne voulais rien savoir de toi. Je marchais dans mon monde, dans ma folie. Et merci dans ta grâce, Seigneur, tu m'as vu. Et malgré que j'étais captif, Seigneur, Le malin me tenait dans ses mains. Comme bien des gens dans notre monde. Mais merci Seigneur parce que tu es dessus de ce monde de ténèbres. Merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Oui, Seigneur, encore mieux, je vais te dire merci pour la croix. Merci pour ce prix que tu as payé pour me racheter de mes péchés. Me libérer et me mettre sur le chemin en me disant, mon gars, envoie à la maison. Oh, mais je vais te dire merci, Seigneur. Merci parce que dans ta grâce, j'ai pu faire demi-tour. Et débarquer du chemin qui m'emmenait en enfer, dans ce puits sans fond. J'ai été libéré et aujourd'hui, je suis en route vers la maison. Oui, je vais te dire merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Yeah.